Cette table ronde, donc début de l'après-midi, vous connaissez le titre, hein, pays pauvre, la crise au prix fort. Il y a quand même un point d'interrogation. Donc, trois personnes qui sont là vont essayer de lever le doute. Je vais d'abord tout de suite les présenter. Juste à ma gauche, Pierre Jacquet, qui est économiste à l'Agence française de développement, directeur de recherche stratégique. À sa gauche, au milieu, Madame Akiko Souha-Eisenman, qui travaille à la fois à l'École d'économie de Paris et à l'INRA, économiste, et à l'autre bout de cette table ronde, Philippe Martin, qui est professeur d'économie à Sciences Po. Moi-même, je m'appelle Frédéric Lemaître, je suis rédacteur en chef au Monde, et j'écris un livre qui s'appelle « Demain à la fin », qui est paru chez Grasset. Je pense que c'est pour ça qu'on m'a demandé d'animer cette table ronde. Alors, je ne vais pas faire une introduction très longue, simplement sur les conséquences de la crise sur les pays pauvres. Vous savez que les mauvaises langues disaient, ça, un journaliste ici peut dire ça, que quand Michel Cantsu dirigeait le FMI, on disait que Michel Cantsu aimait tellement les pauvres qu'il aimait bien qu'il y en ait beaucoup. C'est évidemment très méchant et très faux, mais voilà, c'est histoire de sortir une salle qui peut peut-être être au début de l'exposé dans une certaine torpeur à cette heure de l'après-midi, mais qui aussi sûr ne va pas le rester. Alors, pour planter le décor de manière plus scientifique, Madame Souha-Eisenman va d'abord nous faire un point sur les crises financières passées et les répercussions sur les pays pauvres. Pierre Jacquet interviendra sur cette crise particulièrement, et notamment sur l'Afrique. Et Philippe Martin conclura sur le commerce de l'Afrique et les répercussions de la crise sur le commerce. Chacun aura à peu près une vingtaine de minutes et il y aura un débat avec la salle, c'est parti.
Et la crise, je vais m'intéresser à l'impact social de la crise et aux ménages de ces pays en développement. Donc, le début de mon exposé reprend en fait ce qui a été dit ce matin, donc je n'y reviendrai pas trop. En fait, là, on voit la croissance du PIB dans les pays avancés, dans les pays émergents et dans les autres pays en développement. Et ce qu'on peut voir, c'est cet effondrement en 2009, mais aussi, en ce qui concerne les pays, tous les pays, le... Ouais, alors, comment je fais? Je rapproche mon micro.
Voilà,
là, c'est mieux,
ouais. Oui. Peut-être qu'on peut monter.
D'accord. Alors, dans les pays, ce que l'on voit sur ce graphique qui vous a été présenté, en quelque sorte aussi déjà ce matin, c'est que la crise financière montre un effondrement de la croissance en 2009, mais aussi qu'il y a eu déjà d'autres crises par le passé. Si vous voyez la ligne bleue qui est quand même bien notée, c'est les pays émergents qui ont déjà eu une crise en 98, et en Asie notamment, une autre crise en 2001, on pense à l'Argentine. Avant, si je prolongeais encore avant, il y aurait eu la crise de 94-95 au Mexique, les crises des années 80 de la dette. Donc, ces pays en développement connaissent des crises, certaines financières, d'autres plus structurelles, les crises de la faim à partir de 2005, ils sont dans un environnement fondamentalement risqué. Ça, c'est des données sur la pauvreté avant et après la crise alimentaire. Ce qu'on peut rappeler à ce sujet, je ne présenterai pas le tableau, il sera sur le site web des journées plus tard, c'est que les crises, parce qu'en fait, il y a des économistes qui parlent des trois F en anglais, ça passe bien, c'est food, fuel, finance. Donc ces trois F ont frappé les pays en développement et ont généré, alors que ces pays étaient dans un trend de baisse de la pauvreté, ont généré à peu près 50 millions de plus de pauvres que ce trend depuis 2005. Mais ces répercussions sont très différentes selon les régions et selon le fait que ce soit des gens qui habitent en ville ou à la campagne. Donc, pendant cette présentation, on va rentrer dans ces pays en développement, peut-être même rentrer à l'intérieur de la boîte noire des ménages, vous verrez ça à la fin, et regarder comment l'impact de la crise peut se traduire au niveau des ménages. Les canaux de transmission de la crise, d'une crise macro, d'un choc externe sur les ménages sont, sont connues, je les rappelle ici. Donc c'est d'abord la chute des exportations pour les différentes raisons qui vous ont été indiquées aussi, dont on a parlé ce matin. Tout d'abord la division internationale du travail de plus en plus fragmentée qui font que tous les pays sont, dépendent du commerce et s'effondrent en même temps. Aussi le fait que certains pays en développement ont vraiment misé sur quelques produits comme l'horticulture au Kenya, les fleurs coupées au Kenya, les vêtements au Cambodge, et que ces produits exportés vers les États-Unis, par exemple, sont en train de s'effondrer et ont entraîné des pertes d'emplois. Le deuxième effet, c'est les prix des consommations. Donc là, on peut se dire qu'il y a un répit, mais c'est peut-être un répit temporaire sur le front des prix des biens alimentaires et de l'énergie. Bien sûr, pour les pays et pour ceux qui avaient accès au crédit, les crédits ont été coupés. Et il y a un autre volet spécifique aux pays en développement qui sont les transferts privés. Donc là, les transferts privés, les flux de capitaux sont effondrés, bien sûr, mais aussi les envois des migrants, ce qu'on appelle les remises des migrants. Et ces remises des migrants sont importants. Ils sont plus que l'aide officielle. Ils sont à peu près du même ordre de grandeur que les investissements directs étrangers, et pour l'instant, ils tiennent bon. Mais ces transferts des migrants, regardez la partie droite de l'écran, en pourcentage du PIB, ces transferts des migrants sont très importants pour certains petits pays, comme le Tadjikistan, ça fait la moitié du PIB, les remises des migrants. Tonga, la Moldavie, les Autos, tous ces petits pays-là, envoie disproportionnellement plus de gens à l'étranger qui envoie aussi beaucoup de fonds. Et ceci, c'est aussi un autre de ces liens qui relie les pays en développement au reste du monde. Alors, les pays en développement sont caractérisés, je dirais peut-être pour choquer un peu, moins par leur pauvreté que par le fait que leur environnement est risqué. Le premier risque, il s'agit d'un risque climatique. On peut penser aux inondations cet été, à l'ouragan Ida qui est en train de frapper l'Amérique centrale, aux autres. Et les pauvres, enfin les ménages dans les pays en développement sont plus démunis et sont plus vulnérables à ces risques climatiques que ce que l'on pourrait avoir chez nous. Deuxièmement, un autre point important, c'est que dans ces pays, il n'y a pas de sécurité sociale. Ou si elle existe dans les pays émergents, elle est limitée au secteur formel. Qu'est-ce que le secteur formel ? C'est le secteur dans lequel, donc souvent l'industrie, la manufacture, les emplois publics, pour lequel il y a un contrat et pour lequel il y a justement cette... une assurance, soit une allocation chômage, soit une assurance maladie qui est signée entre l'employeur et l'employé. Cette assurance sociale, cette sécurité sociale, est même dans les grands pays émergents comme l'Argentine, est limitée à juste une partie de la population. Par exemple, en Argentine, le secteur formel, ce n'est pas tout l'emploi, c'est à peu près 60% de l'emploi. Tout le reste, c'est de l'emploi informel. Donc des gens qui vivent, qui travaillent, bien sûr, et c'est l'emploi, qui travaillent, mais qui n'ont pas ces garanties, ce filet de protection sociale. Troisièmement, dans ces pays, il y a peu de banques, de nouveau, peu de banques formelles. Vous avez sans doute aussi entendu parler de la microfinance, ou des prêts de groupe, là c'est des roscas, les tontines, je reviendrai peut-être un peu tout à l'heure, mais en fait, il y a quand même peu de... La microfinance n'est quand même pas si développée non plus. Il y a peu de banques et donc peu d'accès au crédit. Et il n'y a pas d'assureur privé, il n'y a pas de marché d'assurance. Et de temps en temps, on pourrait se dire, si ces gens sont des petits paysans, ils pourraient hypothéquer, vendre leurs terres. Ils ne peuvent pas hypothéquer leurs terres pour emprunter. Et ils ne peuvent de temps en temps pas vendre leurs terres non plus, parce que les droits de propriété sur la terre ne sont pas si formalisés que ça. Ils n'ont pas un bout de papier qu'ils peuvent aller échanger contre de l'argent. Et bien sûr, dernier risque non négligeable, qui est le risque politique. Ce sont des pays avec fragiles, des démocraties parfois, et même des démocraties fragiles, et des frontières toujours mouvantes. Dans cet environnement risqué, les ménages ne sont certes pas restés inertes. Alors, quelle était la stratégie des ménages? On peut distinguer des stratégies ex ante. On sait qu'il y a ce risque, qu'ils vivent dans un environnement risqué et ils essaient de s'adapter, de pallier, de diminuer les risques, la probabilité que le risque leur tombe dessus. Et il y a des stratégies ex post, c'est-à-dire une fois qu'ils ont subi ce choc, ils prennent des décisions en conséquence. Alors, les stratégies ex ante, j'appellerais ça faire feu de tout bois. S'il n'y a pas de marché d'assurance, on s'assure sur une autre dimension. On s'assure par l'offre de travail ou par la composition familiale. Donc, la première stratégie, diversifier les sources de revenus. Si on est un agriculteur et qu'on a plusieurs parcelles, on plante des choses différentes sur les différentes parcelles. Parce que voilà, s'il y a une maladie sur une des cultures, au moins l'autre petite parcelle va peut-être arriver à y échapper. Si on a plusieurs ménages, eh bien, un ménage fera de l'agriculture, l'autre fera un emploi à côté, pallier à l'agriculture, ou ira chez la ferme du voisin en espérant que la maladie attaquera sur les bêtes, attaquera sa ferme, mais pas la ferme du voisin. Et puis si on a la chance d'avoir un enfant éduqué, ben on l'enverra en ville, peut-être essayer de réussir un de ces concours de la fonction publique. Donc, diversification des sources de revenus. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier. On essaie de faire un peu de tout. Faire un peu de tout, ça a aussi un revers. Ça veut dire qu'on ne se spécialise pas. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire bien quelque chose et devenir de plus en plus, savoir de mieux en plus mieux faire quelque chose. On est condamné à faire un peu de tout. Ce qui est... Donc, l'autre aspect que j'ai un peu mentionné, c'est la migration. La migration, et pour les femmes, le mariage, aller dans une autre famille, aller dans un autre endroit, faire dépendre ses revenus des aléas de la ville ou des aléas d'une autre région, c'est aussi une manière de diversifier le risque. Et la migration internationale est aussi une manière de diversifier le risque. Les migrations internationales dont je vous parlais tout à l'heure au sujet des remises des migrants sont importantes pour les ménages des pays pauvres parce qu'ils ont cette fonction d'assurance mutuelle. Le migrant, la famille envoie un de ses membres à l'étranger en lui donnant en se saignant en quatre veines pour lui donner un petit capital de départ et en lui permettant de payer le coût de cette migration. Et celui qui, une fois qu'il est parti, ce migrant a une obligation morale d'envoyer des fonds et d'envoyer plus de fonds quand sa famille est plus mal en point. Autre utilisation des fonds, ils permettent aussi de faire de l'investissement de long terme, d'acheter du bétail, d'envoyer les petits frères à l'école. Donc c'est aussi des investissements long terme. Possibilité, donc pour les ménages qui le peuvent, c'est effectivement d'épargner et d'essayer d'accumuler un peu d'actifs. Alors, toutes ces stratégies, notamment de diversification des sources de revenus, ça marche si il y a le risque et juste un risque qui va toucher la ferme et pas la ferme du voisin, qui va toucher mon village, pas le village du voisin, ou qui va toucher mon pays, mais pas le pays du voisin. Donc, si le risque est systémique, si le risque touche tous les pays en même temps, et dans un pays, tous les secteurs en même temps, dans ce cas-là, on ne sait pas très bien quelle peut être l'efficacité de ces stratégies. Les ménages, une fois que le choc leur est tombé dessus, peuvent aussi avoir des stratégies ex post. Et c'est peut-être ce qui est en train de se passer en ce moment dans les pays en développement. Et c'est certes ce qui s'est passé dans les crises passées en 94, 98 ou 2001 dans les différents pays en développement. Premièrement, ils ont diminué leur consommation. Donc ils ont mangé moins ou ils ont dépensé moins. Ils ont réalloué leur consommation. Donc en achetant moins de biens durables, donc le réfrigérateur, bon, par exemple la voiture, auquel vous pourriez penser, bon, ben, ça c'était hors de question. Les vêtements, c'était des biens semi-durables, c'était aussi hors de question. On se concentrait sur l'alimentation. Et dans l'alimentation, on pouvait aussi réallouer, acheter des céréales dont le prix montait, et au détriment de la viande, par exemple. L'autre stratégie ex-post, c'était la mise au travail, donc la mise au travail des femmes, pour des emplois rémunérés et non plus du travail domestique. Et les enfants, on les retire des écoles et on les met au travail. Pour ceux qui le peuvent aussi, désépargner et vendre des actifs, donc ce qui doit être aussi une décision déchirante, hein, mais qui a aussi dû être bien sûr pratiquée, et des emprunts, donc si on n'a pas accès à des banques, des emprunts auprès d'un groupe. Parce que les stratégies des ménages, c'est aussi des stratégies individuelles, des stratégies familiales et des stratégies de groupe. Donc les stratégies de groupe, c'est par exemple, si on est dans un village, donc il y a aussi des stratégies ex-ante, des stratégies ex-post, si on est dans un village, c'est par exemple essayer, si c'est un risque climatique de nouveau, de prévoir, d'essayer d'atténuer l'impact des sécheresses en organisant collectivement l'irrigation ou en creusant collectivement un puits. Et puis il peut aussi avoir ces prêts de groupe, ces tontines, c'est-à-dire chacun, les gens se mettent ensemble et ils mettent tout leur fonds à disposition d'un des membres. Le membre investit par exemple, puis rembourse tout le groupe et ensuite le furet passe à un autre membre du groupe qui investit à son tour puis qui rembourse. Mais de nouveau, toutes ces stratégies, notamment de prêts de groupe, marchent si tout le monde n'est pas pauvre en même temps. De nouveau, qu'est-ce qui se passe s'il y a un risque systémique et si tous les membres d'un groupe deviennent pauvres en même temps? Au ménage et au groupe s'ajoute un troisième acteur important, l'État. Les transferts publics ont joué un rôle important dans l'atténuation des effets des crises macroéconomiques dans les pays en développement. Je citerai deux types de programmes d'assistance, les transferts conditionnels accordés aux ménages avec enfants, donc on leur donnait une somme importante pour des ménages pauvres, une somme importante tous les mois, en échange de conditions de la part des ménages, et ces conditions consistant à scolariser les enfants et aussi à les emmener à des visites médicales périodiques. Donc il y a eu différents pays dans lesquels ça s'est passé, on cite souvent le programme Progressa au Mexique, qui a été un des précurseurs de ce genre de transfert conditionnel. L'autre programme, c'est les programmes de travaux publics, food for work, c'est-à-dire on donne de l'argent, à manger ou du salaire contre des travaux d'intérêt général, justement creuser un puits, faire une route. Là, justement, ces programmes marchent si on donne des salaires assez bas. Pourquoi donner des salaires assez bas? C'est pour s'assurer que c'est vraiment ceux qui en ont besoin, ceux qui sont vraiment prêts à travailler pour pas grand-chose, qui vont se présenter de même. Parce que la difficulté de ces programmes, c'est de pouvoir cibler les pauvres, de pouvoir donner vraiment à ceux qui en ont besoin et seulement à ceux qui en ont besoin. Le troisième programme, beaucoup plus coûteux et c'est plus ponctuel, c'est les distributions de vivres. Donc ces programmes existent, malheureusement ils n'existent pas dans tous les pays. Nora Lustig, dans un survey de 2008, raconte qu'en fait environ 40% des pays à faible revenu et un peu moins de la moitié des pays à revenu intermédiaire n'ont pas ce genre de programme. Donc ce genre de programme n'existe pas partout dans les pays pauvres. L'autre chose importante, c'est ces programmes sont efficaces quand ils sont déjà mis en place avant la crise et qu'ils montent en régime pendant la crise. Si on commence à les voter et à commencer à les mettre en place une fois que la crise a lieu, alors là, ça se met en place après un certain délai, après un ou deux ans, donc c'est un peu trop tard. Premier point. Deuxième point, en cas de crise, il est difficile de repérer les nouveaux pauvres, ceux qui vont tomber dans la pauvreté. Là, quand je parle de pauvreté, ben, je ne suis pas vraiment, j'ai pas revenu là-dessus. Je parle, donc mon chiffre de 50 millions tout à l'heure, par exemple, c'est l'extrême pauvreté, c'est-à-dire les gens qui ont moins de 1 dollar par jour, précisément moins de 1,25 dollar par jour. Donc c'est vraiment ceux qui sont en extrême pauvreté, ceux qui n'ont pas assez à manger, même pour une activité physique légère. Mais autour de ça, il faut s'imaginer, en France, on parle souvent du chômage et du halo du chômage, il faut penser qu'il y a les pauvres, il y a un halo de pauvreté, c'est-à-dire des gens qui sont juste au-dessus du niveau de pauvreté, de la ligne de pauvreté, mais qui sont tout à fait vulnérables et qui peuvent très facilement tomber en dessous de ces lignes. Et ça, et la crise va précipiter plus de gens en dessous de la ligne de pauvreté, et c'est très difficile de les identifier. Par exemple, en Argentine, en 2002, les nouveaux pauvres, ben, c'était la classe moyenne. C'était pas du tout les mêmes caractéristiques que les gens qui étaient pauvres dans les années 80. C'est les pauvres permanents. C'était des gens plus éduqués, urbains, classe moyenne, activité financière ou construction. C'était pas du tout les mêmes caractéristiques. Donc pour finir, me poser avec vous quelques questions en me basant sur l'expérience de la crise asiatique de 1997. Est-ce qu'une crise courte peut avoir des effets à long terme? Comme vous le savez, en ce moment, il y a la cocotte minute, il y a des espèces d'effets d'espoir, on espère qu'il y aura une reprise. Donc finalement, certains se disent, mais il y a une grande chute, un gros plongeon, mais non, il va sans doute peut-être avoir une reprise, un W, voire un U. Donc, est-ce que c'est si important? Est-ce que finalement, ça va pas revenir comme avant? Aussi, pour la pauvreté, est-ce qu'il y a encore lieu de parler d'impact social de la pauvreté? Ce débat a déjà eu lieu sur l'Indonésie, et à propos de la crise de 1997-98. Donc regardez ce graphique, ça c'est le taux de pauvreté. Donc en Indonésie, il y a eu une énorme crise en décembre 1997, où l'Indonésie a été entraînée par les attaques sur la convertibilité de la roupie à la suite de la Thaïlande. Ensuite, ça a donné une énorme dépréciation, des faillites bancaires et aussi la chute du régime de Suharto. Et donc il y a eu une énorme récession. 3 ans après, l'économie avait repris. Et si vous voyez, en 2000 ou en 2002, le taux de pauvreté est revenu à peu près au niveau de 97. Donc on pourrait se dire, bon, ben voilà, il y a eu cet épisode malheureux, mais finalement, on a effacé, c'est une page blanche, on revient à la situation ex ante de 97. Alors, si vous voyez un peu les lignes en pointillés, ça, c'est des lignes en pointillés qui ont été ajoutées par ces deux auteurs, Martin Ravalion et Michael Lokshkin. Eux, ils disent, regardez, c'est les trends qui sont importants. Si vous voyez les trends, on était sur un trend décroissant avant 97, et on n'a jamais récupéré ce trend après la crise de 98. Et eux trouvent, en fait, que la moitié des pauvres qu'on constate en 2002 n'auraient pas dû être pauvres, et la moitié des pauvres de 2002 ne sont tombés en dessous du niveau de pauvreté, ne sont en dessous du niveau de pauvreté en 2002 que parce qu'il y a eu la crise de 98. Donc 5 ans après, il y a eu toujours des effets de long terme de la crise sur le nombre de pauvres. Non seulement cela, mais en plus, il y a eu aussi des effets différents par région. Donc plus la région était riche, plus elle a été frappée. Ça tient peut-être aux caractéristiques mêmes de la crise. Et on peut aussi rentrer maintenant dans cette boîte noire des ménages. Il y a eu un effet sur la scolarisation. Le taux de scolarisation, le nombre d'enfants qui vont à l'école a diminué. Mais si on rentre dans la boîte noire des ménages, c'est les enfants les plus jeunes qui ne sont pas rentrés à l'école ou qui ont été retirés de l'école. Et les familles pauvres, ont essayé de préserver la scolarité des enfants un peu plus âgés, des enfants qui avaient 15 ans, qui avaient 12 ans, 15 ans. Ils ont essayé de... Il y avait cette crise, mais dans la boîte noire des ménages, dans ces ménages eux-mêmes, certains ont été frappés plus que d'autres, d'autres ont été un peu protégés. Bon, les familles ont essayé de les protéger. même effet sur la nutrition. La nutrition, effectivement, la consommation alimentaire a diminué, mais quand on regarde à l'intérieur de la boîte noire des ménages, les personnes âgées et les femmes ont vraiment souffert de malnutrition et ils ont essayé de protéger les enfants. Dernier élément aussi de cette crise indonésienne, c'est que pendant cette crise, il y a eu toujours une pression constante sur les ressources naturelles, le bois, sur les coupes de bois, légales et illégales, illégales pour se chauffer, illégales parce que c'était encore une des rares exportations qui marchait, et donc les exportations de bois et pour le papier ont continué à augmenter. Donc en conclusion, les ménages dans les pays pauvres sont frappés par la crise financière. Il est important de s'intéresser à la répartition de la crise financière, aussi sur la répartition des revenus dans les pays en développement. L'expérience des crises passées montre le rôle des stratégies des ménages et des groupes dans un environnement structurellement risqué. Les transferts publics ciblés vers les pauvres sont importants, mais il est difficile de cibler les pauvres quand il s'agit de nouveaux pauvres dont on ne connaît pas vraiment les caractéristiques. Et même une crise de court terme peut avoir des effets de long terme.
Je vous remercie. Merci. J'avais juste une question à vous poser. Vous avez parlé de la stratégie des ménages, vous avez parlé de la stratégie des groupes, vous avez parlé de la stratégie des États avec les transferts publics. Vous n'avez pas parlé de la stratégie de la communauté internationale. Alors, est-ce qu'il ne faut rien en attendre? Que préconisez-vous?
Je crois que pour l'instant, la stratégie des... j'ai affaire à beaucoup d'experts à côté de moi et dans la salle, mais je crois que la stratégie des donneurs d'aide, ça a été aussi de tenir bon, c'est-à-dire de maintenir, d'essayer de maintenir l'aide à son niveau, ou voire l'augmenter si c'est possible, mais en tout cas à le maintenir. Et je pense que cette aide devient, à force d'avoir parlé de la fatigue de l'aide, de cette aide inefficiente, l'aide va vraiment se concentrer sur les pays les plus pauvres, ceux qui ont le plus besoin, sur les États les plus fragiles. Il n'est absolument pas question de couper encore plus l'aide.
Merci.